Voilà donc notre première intervention par notre frère Sylvain Aharonian. Et j'invite notre frère à s'approcher. J'aimerais vous recommander fortement son livre, qui est sa thèse de doctorat, remarquable concernant donc l'histoire de nos églises. Et vraiment, je crois qu'il n'osait pas, mais moi j'ose. Vous le trouverez au stand de l'IBN et vous pourrez donc vous le procurer. Il y en a 12, paraît-il.
13.
Donc on va les vendre aux enchères. Non. Vous pourrez après en commander éventuellement. Et je crois que nous aussi, il faudra voir, mais il y aura possibilité d'en avoir parce que c'est intéressant. Je dirais que ça devrait devenir votre livre de chevet pour savoir comment sont nées nos assemblées. En tout cas, Sylvain est donc professeur à l'Institut biblique de Nogent. Il est ancien dans une de nos églises à Saint-Maur. Et donc, il a sa thèse de doctorat et brillamment. Et nous le remercions en tout cas d'être venu parmi nous et de nous entretenir maintenant. Merci, Sylvain.
Merci beaucoup, Dominique, pour ces paroles chaleureuses en introduction. Alors, je ne vais pas vous parler du livre, maintenant que vous savez. Je m'interroge un tout petit peu, là, au début de ce moment. Est-ce que c'est parce que je suis arménien qu'on est venu me chercher pour me demander de parler d'argent, des ressources matérielles dans l'histoire des assemblées? Peut-être, je ne sais pas, je réfléchis. En tout cas, c'est vrai que en examinant l'histoire de nos assemblées de frères larges, comme on dit ou on disait, je n'ai quand même pas pu complètement éviter le thème de l'argent. L'histoire des frères larges de France, elle n'est pas une simple histoire d'argent, évidemment, mais cette histoire, elle ne s'est pas construite non plus sans argent. Et à ce propos, j'aimerais faire une remarque préliminaire qui permettra, je pense, de recadrer un peu notre histoire sur l'échiquier, en fait, du christianisme national de façon plus générale. Nos assemblées, elles sont parties de zéro, en aucun cas n'étant subventionnées par l'État, elles n'ont jamais compté que sur les croyants de France ou les croyants de l'étranger, mais elles n'ont jamais compté que sur eux. Même à l'époque concordataire, c'est-à-dire avant 1905, au tout début, hein, c'est sûr, de l'implantation des frères larges en France, eh bien les assemblées qui ne relevaient pas d'un culte reconnu, donc avant 1905, n'ont jamais reçu de subside de l'État. Alors d'ailleurs, le missionnaire anglais George Jones, qui a été longtemps à l'œuvre en France, en région parisienne, il y a plus de 60 ans, écrivait la chose suivante. « Dieu n'envoie pas ses enfants mendier aux enfants du monde. Il n'a que faire de l'argent des impies. » On a l'impression, en lisant cela, que l'argent, tout de même, a une odeur. Il y a en tout cas une sorte de correspondance, une adéquation de cette pensée, du raisonnement théologique avec la situation d'indépendance financière par rapport à l'État. Il y a en tout cas, justification peut-être théologique a posteriori de cette situation d'indépendance financière par rapport à l'État. Alors, ceci étant souligné, je vous propose de voir quel chemin nous allons prendre pour examiner un peu le sujet, donc cet angle, cet après-midi, historique. On va essayer de voir un tout petit peu comment ou quelle a été la contribution des fidèles, tout d'abord, à l'œuvre de nos assemblées. Ensuite, on verra quel aura été le soutien de l'étranger. Et enfin, comment l'emploi des moyens ainsi réunis s'est-il fait? Alors, la première approche, la contribution des fidèles. Contrairement au premier temps, par exemple, de l'histoire des frères outre-Manche, il faut dire que les assemblées de France, jusqu'au moins vers le milieu du XXe siècle, sont apparemment composées en grande majorité de petites gens, c'est-à-dire de personnes qui sont en général très peu ou peu fortunées. Et c'est d'ailleurs le cas de bien d'autres groupes ou ensembles évangéliques pendant le même temps. Du coup, comme pour d'autres évangéliques, ce que l'on peut dire déjà, c'est que les réalisations des frères semblent, sur le plan matériel, à la fois modestes, du coup, et en même temps remarquables, quand on les rapporte donc non seulement au nombre des fidèles, mais aussi à leurs ressources, à leur niveau social. Alors, d'une certaine façon, concrètement, il me semble que la première contribution des frères aux charges de leurs assemblées respectives, elle aura été une conséquence, en quelque sorte, et pendant longtemps, d'une sorte de remarquable allergie au pastorat professionnel, même si il n'est pas exclu qu'à l'inverse, les contingences pratiques aient influé sur les raisonnements et même sur la théologie. De façon générale, en effet, après la période d'implantation par un pionnier, on voit régulièrement, de façon classique dans l'histoire, les fidèles d'une assemblée qui confient volontiers la tâche pastorale à un ou à plusieurs bénévoles. D'ailleurs, on sait que cette répartition des tâches entre quelques bénévoles, elle aura aussi été pratiquée pendant quelque temps, en tous les cas par les Mennonites, par exemple. Les baptistes, en revanche, eux, auront généralement préféré le pastorat professionnel. Et il ressort en tout cas que, pour ce qui est des frères, le système qu'ils ont choisi de façon privilégiée, le bénévolat, c'est un système qui aura permis à ces frères d'esquiver, on pourrait dire, un défi financier plus grand encore que celui qu'ils ont eu à relever. Alors, en revanche, on pourrait aussi dire que, en évitant de s'en remettre à des pasteurs professionnels qui ont reçu une formation théologique de longue haleine, peut-être que les frères se sont privés d'une certaine garantie de consistance ou de cohérence ou d'homogénéité sur le plan doctrinal. En tout cas, le dévouement, le bénévolat de nombreuses personnes, de nombreux frères dans les assemblées, aura permis un certain développement, indéniablement. Marc Ernst, par exemple, qui a joué un rôle important, un rôle de premier plan, vous le savez, parmi les assemblées, il était instituteur, directeur d'école, jusqu'en 1957, date à laquelle il est arrivé à la retraite. Et il a continué, bien sûr, peut-être même de plus belle à servir parmi les assemblées. En outre, toujours pour parler de bénévolat, je relève que les frères Larges, comme d'autres évangéliques de France, bien sûr, auront bénéficié à maintes reprises du talent de bien des personnes, enfin de quelques personnes plutôt, qui ont su mettre de façon bénévole leurs mains au service des assemblées en construction, des personnes suffisamment douées pour aménager, voire même construire des bâtiments cultuels. C'est ce qu'auront fait par exemple Henri Metz et Henri Briand. Alors le bénévolat me semble ainsi donc un apport, une contribution majeure, et peut-être la première par laquelle il faut commencer ce chapitre. Ceci étant dit, cette culture du bénévolat, elle ne correspond quand même à aucun mépris des contributions directes sous forme d'argent. Bien au contraire, on constate que les fidèles des assemblées se soumettent à cette pratique du don régulier, à la pratique, sinon de la dîme, du moins d'un don régulier et substantiel à la vie de leur assemblée. Il y a vraiment une culture du don qui se remarque dans l'histoire des assemblées de frères en France. Être frère, donc, ça signifie, entre autres choses, s'engager financièrement. Alors là aussi, c'est vrai que l'on pourrait dire certainement la même chose de beaucoup d'évangéliques. Ce qui est remarquable, c'est que cette pensée relative aux dons réguliers, substantiels, c'est une pensée qui s'impose aux fidèles, qu'ils soient nouveaux dans la foi ou alors qu'ils soient plus anciens. Un exemple, par exemple, en 1949, on relève que plusieurs des dons qui étaient destinés à ce moment-là pour l'œuvre d'évangélisation des assemblées, plusieurs de ces dons étaient faits par de tout jeunes convertis, par des personnes converties depuis quelques mois seulement. Et c'est d'autant plus remarquable que ces personnes nouvellement converties eh bien, étaient pour beaucoup d'entre elles d'origine catholique, c'est-à-dire avec une culture qui n'était pas, a priori, celle du don pour l'entretien des ministres de l'Évangile. Alors, bien sûr que ces dons-là, cette habitude du don, elle ne s'obtient pas sans effort pédagogique. Et je citerai ce que Marc Ernst, encore lui, écrivait par exemple en 1949, encore cette date. En exhortant les fidèles à plus de générosité, il disait « L'argent est nécessaire à l'œuvre de Dieu. Ici, c'est une propriété qui conviendrait pour loger les serviteurs de Dieu, pour évangéliser, pour rassembler de la jeunesse. Ailleurs, c'est un local à prendre, un terrain sur lequel on pourrait construire, un colporteur qui pourrait se lancer dans cette tâche urgente et si négligée, un serviteur de Dieu qu'il faudrait pour intensifier et développer une œuvre naissante. Il est vrai, ajoute-t-il, que nous sommes pauvres et faibles, peu nombreux en France, que bien des assemblées doivent utiliser une partie de leurs ressources en faveur des plus déshérités. Et pourtant, nous ne saurions sans cesse tourner les regards vers l'étranger comme l'État vers un plan Marshall providentiel. Ce dicton « Aide-toi, le ciel t'aidera » semble particulièrement applicable à notre cas. Alors, il ressort d'un tel appel, qui n'est pas unique, une certaine, je dirais, angoisse financière, quand même. On voit que les choses ne vont pas toutes seules. Mais en même temps, ressort une réelle résolution, une ferme intention d'aller encore et encore de l'avant pour ne pas risquer de freiner l'œuvre de l'Évangile, les progrès de l'Évangile. Et c'est ainsi qu'on fait appel au sens de la responsabilité des fidèles, en essayant donc de raviver leur flamme militante, comme on dit parfois. Il y a aussi une sorte de, dans ce texte peut-être un peu, mais aussi dans d'autres, une sorte de dramatisation des enjeux pour engager encore toujours les fidèles à relever le défi. Il faut convaincre qu'il faut donner et non pas s'en remettre à des donateurs étrangers, comme écrivait Marc Ernst. Et de fait, l'histoire montre que les frères de France n'auraient certainement pas pu, sans leur propre mobilisation, eh bien, réussir à faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire à développer ni leur action prosélytique d'ailleurs, ni en fin de compte leurs assemblées. Sans leur propre mobilisation, tout cela n'aurait certainement pas été possible. En tout cas, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on note que la revue Servir en attendant encourage à donner, et en particulier pour les serviteurs de Dieu. Qu'ils soient à l'œuvre donc dans une assemblée particulière, ou alors qu'ils soient aussi ministres itinérants. On estime en effet, c'est à souligner, que les serviteurs de l'Évangile ont le droit de vivre de l'Évangile. En sorte que, comme l'écrivait George Jones, les fidèles ne sauraient prétendre être nourris gratuitement des fruits de la parole de Dieu, de l'étude de la parole, qui a demandé beaucoup de temps. Alors, il faut remarquer ici que le ministère ecclésial, le pastoral, le ministère ecclésial plus généralement, dans la vision des frères, il reçoit une conception essentiellement instrumentale. Quelqu'un qui est ministre de l'Évangile ne devient jamais pour autant une personne à part, un clerc. Non, le ministère garde essentiellement un caractère instrumental, qui, du coup, naturellement, n'exclut pas l'exercice d'une activité temporelle, d'un travail à côté du ministère. Néanmoins, dans les faits, on constate que cette vision, elle s'accommode de plus en plus souvent, au fil des années, à une professionnalisation du ministère. Quant aux évangélistes itinérants, d'ailleurs, ou aux fondateurs d'assemblées, alors là, il est toujours allé de soi qu'ils pouvaient être ministres à plein temps. De toute façon, au milieu du XXe siècle, eh bien, il est clair qu'on s'efforce de donner conscience de plus en plus d'une responsabilité concrète à l'égard en particulier des ministres de l'Évangile. Et de temps en temps, d'ailleurs, le dénuement de certains d'entre eux est propre à stimuler la générosité des fidèles. le dénuement de certains ministres aussi les rend, on pourrait le dire par ailleurs, d'autant plus proches des petites gens dans les assemblées. Mais ça, c'est une autre affaire. Toujours est-il que le simple fidèle, il sait pour qui il est appelé à donner. Il sait pourquoi et pour qui il donne. Je veux dire par là que, traditionnellement, chez les frères larges, eh bien, on est appelé à donner non pas à une institution abstraite, un peu non palpable, mais bien au contraire, on est appelé à donner à son assemblée, à son serviteur, ou plutôt au serviteur de l'Évangile dans son assemblée. Éventuellement aussi, on est appelé à donner à tel petit orphelinat qui est dans la famille des assemblées, on y reviendra. Le donateur, bref, il répond ainsi à un besoin patent, tangible, et à un besoin qui, plus est très souvent impérieux. Alors, on peut regarder aussi une enquête qui a été faite il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, et qui permet un peu d'évaluer le niveau la contribution des fidèles de France à la prise en charge financière des ministres à l'œuvre en son sein. Sur 54 assemblées qui déclaraient bénéficier d'au moins un plein temps, une cinquantaine d'assemblées ont précisé quelle part des frais correspondants elles couvraient. Et cela donne ce schéma qui est assez, je pense, clair et parlant en lui-même. Ce qui frappe en tout cas immédiatement, c'est une certaine faiblesse financière des assemblées, encore vers la fin du XXe siècle. Alors, en parlant de faiblesse, on pourrait aussi évoquer la précarité immobilière de nombreuses assemblées pendant longtemps et notamment au milieu du XXe siècle. Or, cette précarité immobilière, on note qu'elle aura stimulé la solidarité dénominationnelle d'une façon très nette. En 1956, par exemple, on suggère que chaque assemblée qui est en quête d'une salle, d'un local, eh bien, fasse un effort personnel de collecte, mais que aussi toute assemblée déjà logée, eh bien, pense à celles qui ne sont pas logées et fasse donc une ou plusieurs collectes annuelles dans ce but. Ce qui est sûr, c'est que la précarité immobilière et plus largement financière, c'est un aspect qui est très marquant dans l'histoire de l'implantation de nos assemblées en France. Mais il me semble qu'il faut voir en même temps non seulement ce fait brut, mais que cette précarité, elle aura été, en général en tout cas, d'autant plus grande, d'autant plus nette, que la volonté de gagner encore et encore des âmes au Seigneur a été forte et inflexible. C'est en fait, faute de se résoudre à la stagnation de l'œuvre d'évangélisation, c'est faute de se résoudre à la simple gestion des acquis, finalement, que les frères en France, en bons revivalistes, d'ailleurs, de façon plus générale, se sont souvent retrouvés dans des situations assez précaires et qu'ils se sont souvent accommodés d'un horizon un peu stressant sur le plan financier. Au fond, c'est leur esprit de conquête qui les aura obligés à cette situation-là et qui les aura obligés à la foi, plus précisément. Il s'agit d'œuvrer à l'avancement du règne de Dieu, en s'en remettant à lui pour qu'il assure pour les questions financières, mais non sans consentir aussi soi-même à des sacrifices d'argent. D'ailleurs, c'est à un rang assez remarquable qu'est élevé le don. Il est élevé au rang de signe ou de critère de qualité de la religion personnelle, à en croire en tout cas ce qu'écrivait en 57 Jean Almodovar. Notre christianisme vaut ce qu'il nous coûte. Alors, je vous propose de passer à la deuxième approche. Le développement des assemblées françaises bénéficie dans une certaine mesure, tout au long de son histoire, du soutien de donateurs étrangers. Mais ce qui est clair quand même, c'est que ce concours apporté de l'étranger a été visiblement très déterminant particulièrement déterminant dans les premières années de l'implantation. D'une certaine façon, d'ailleurs, on pourrait se dire que cette contribution étrangère, elle compense ou elle plutôt pallie un peu l'absence de soutien direct de l'État français. C'est en tout cas ce que d'anciens catholiques, fraîchement convertis, fraîchement mis dans les assemblées, ont pu considérer un certain temps, en comparant justement avec leur ancienne religion concordataire encore il n'y a pas longtemps. En tout cas, puisque le mouvement des frères larges en France, a notamment des racines romandes, suisses-romandes et britanniques, il n'est pas surprenant de constater que c'est d'abord de Suisse et d'Outre-Manche, et non pas des États-Unis d'abord, sauf exception, que provient l'aide, l'assistance. Et elle provient d'ailleurs apparemment sans volonté d'emprise, de mainmise. Alors c'est sous forme d'imprimés, de tentes pour l'évangélisation, ou sous forme de moyens pour faciliter la location ou l'acquisition même de locaux, que cette aide de l'étranger arrive. Et elle est destinée massivement à l'œuvre d'évangélisation. Ceci dit, plus concrètement, la première forme de soutien qui est procurée ainsi, c'est l'entretien des nombreux missionnaires étrangers à l'œuvre au sein donc des assemblées françaises. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans correspondance, sans rapport, avec le faible nombre de pasteurs professionnels parmi les frères à l'étranger qui nous envoyaient des missionnaires. Il me semble qu'il y a ici certainement un certain rapport. Les frères britanniques, par exemple, faisant, si je caricature, des économies sur la ligne du pastorat professionnel pour avoir ainsi d'autant plus de moyens pour l'envoi de missionnaires à l'étranger. En tous les cas, en 1955, par exemple, on compte 11 frères missionnaires venant de Grande-Bretagne et se trouvant donc à l'œuvre en France. Sachant que c'est aussi de Suisse, bien sûr, que d'autres parviennent. Au début du XXe siècle, on repère notamment le Suisse Henri Comtès, qui ne manque pas d'écrire à ses amis suisses pour leur donner des nouvelles et pour susciter leur générosité. Il écrit dans la revue Semailles et Moissons, mais il écrit aussi en anglais dans la revue Echo's Missionary Magazine pour susciter aussi la générosité des lecteurs britanniques. Voilà, alors de façon générale, au XXe siècle, il y a non seulement des missionnaires étrangers ainsi soutenus, mais aussi plus généralement de nombreux frères à l'œuvre en France qui reçoivent un soutien de l'étranger. Et à la fin du XXe siècle encore, en 1999, on constate que les trois quarts des quelque 6,5 millions de francs nécessaires chaque année pour le salaire des ministres pris en charge par l'entente évangélique viennent de l'étranger. Il semble qu'à la fin du XXe siècle, les CAEF n'aient pas encore atteint tout à fait l'indépendance financière. Alors, si on se penche un peu plus particulièrement sur l'assistance des Suisses, quelques éléments concrets, il faut d'abord noter que cette assistance, elle remonte aux toutes premières années de l'implantation en France. Au milieu des années 1880, déjà, dans la publication suisse qui a précédé Semailles et Moissons, on trouve des preuves intéressantes de la générosité des frères romans pour la mission en France. Et par la suite, ça continue. Leur libéralité se répète. Un ou deux exemples. Quand je dis ça, ça veut dire peut-être qu'il y en aura trois. Par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on note un élan de solidarité des Suisses pour permettre au missionnaire suisse René Zinder, à l'œuvre ici, en Auvergne, de se procurer une automobile afin qu'il puisse, de façon plus facile et efficace aussi, évangéliser. Autre exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, là encore, la libéralité des Suisses romands est manifeste pour permettre, par exemple, à l'Allemand Max Anger d'intensifier son évangélisation à Marseille, sur la Canebière. Et puis d'ailleurs, dans cette période d'après-guerre, on noterait aussi que la générosité des Suisses permet le bon fonctionnement de Servir en l'attendant, le périodique. Et encore, en 1979, près de 30% du budget missionnaire des assemblées évangéliques de Suisse romande est consacré à la mission en France, ce qui représente quelques 200 000 francs suisses. Voilà quelques exemples. S'agissant maintenant concrètement de l'assistance des Britanniques, là aussi il faut dire qu'elle remonte aux premières années de l'histoire de l'implantation en France. Ce sont des frères britanniques aisés qui soutiennent l'implantation, par exemple, des assemblées italiennes sur la Côte d'Azur. Et il y aurait d'autres exemples. Au début du XXe siècle, c'est aussi avec le soutien d'Outre-Manche qu'un Claude Arnera, par exemple, achète dans les années 1920, un camion pour évangéliser en plein air. Il est assez connu pour certains et c'est un engin assez remarquable qu'on peut deviner là à l'écran. Un peu plus tard, en 1935, c'est d'Angleterre qu'une tente parvient aux frères pour qu'ils évangélisent. Quant à Max Anger, qu'on avait déjà situé à Marseille, eh bien c'est encore d'Angleterre qu'il reçoit un jour, c'est après la Seconde Guerre mondiale, un haut-parleur pour pouvoir haranguer les foules sur la Canebière comme il aime le faire. Alors d'ailleurs, ce missionnaire Max Anger, à Marseille, il se rend assez régulièrement dans les îles britanniques pour parler de sa mission à Marseille et aussi pour, évidemment, recueillir des libéralités. George Jones aussi fait la même chose. Et on pourrait encore évoquer les dons des Britanniques pour l'œuvre des camps bibliques, ou enfin encore le don important qu'ils font en 1989 en vue de la constitution d'un fonds spécial pour la formation biblique de membres de nos assemblées. Voilà quelques exemples qui nous montrent quelle a été cette assistance aussi des Britanniques. Et alors, qu'en est-il de l'assistance matérielle des Américains? Alors, je disais tout à l'heure qu'elle a été exceptionnelle, en tous les cas pendant de nombreuses décennies, les premières décennies de l'implantation. Et cette exception, en fait, elle est à peu près unique. Elle se rapporte au cas de la mission de Henri Comtesse dans le département qu'on appelait encore à l'époque les Basses-Alpes, hein, donc dans le sud de la France. C'est en effet dans la période de la Grande Guerre que des relations se développent entre le missionnaire suisse Henri Comtesse et toute une série d'amis qu'il se fait donc en Amérique. Ses amis, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, il les avait croisés en uniforme au cours de la Seconde Guerre mondiale en France, dans le sud de la France. Et ainsi, donc, ils tissent des liens d'amitié et c'est finalement, progressivement, dans ce cercle d'amis notamment, qu'il va trouver de pieux donateurs pour l'œuvre qu'il développe à Digne. Chose exceptionnelle d'ailleurs pour les frères Large à l'époque en France, la première chapelle de Digne que Henri Comtesse fait construire, elle est bâtie en 1921-22 à l'aide d'amis d'Amérique, comme le dit lui-même Henri Comtesse. Et ces amis d'Amérique sont parfois d'origine française. Il y a d'ailleurs une Française parmi les donateurs aux États-Unis qui fait un don de $900 dans ces années, début des années 20. Et puis c'est encore grâce à la générosité de New-Yorkais, certes d'origine française dans plusieurs cas, que Henri Comtesse peut louer presque chaque dimanche après-midi cet engin. C'est une grosse automobile sur laquelle on peut monter à plusieurs, qui permet d'aller évangéliser donc les campagnes autour de Digne. Alors il est à noter que dans cette période-là, dans la première partie, la première moitié du XXe siècle, Henri Comtesse fait partie des rares ministres de l'Évangile qui osent chercher des fonds en pratiquant ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le fundraising, la recherche de fonds. Il est à peu près le seul, disons, on pourrait encore en mentionner un ou deux, George Jones, comme je l'évoquais tout à l'heure, Max Anger aussi. En fait, ce sont tous des missionnaires étrangers qui osent se lancer dans cette sorte de recherche de fond. En effet, les ministres français, à l'œuvre déjà dans les assemblées françaises, sont encore en retrait. Qui plus est, ils sont peut-être encore trop marqués par le système concordataire du recours à l'État pour oser chercher ainsi des fonds. Voilà donc pour cette aide exceptionnelle provenant d'Amérique. Alors certes, dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a d'autres exemples d'aide provenant d'Amérique, mais ce sont des exemples qui restent plutôt épisodiques et c'est beaucoup moins massif que l'aide provenant de Suisse ou de Grande-Bretagne. Alors avant que je vous ai complètement assommé, je vous propose d'aborder le troisième point. Ce sera donc le dernier, comme prévu. Il s'agit pour nous d'essayer de voir maintenant comment on a pu utiliser tous ces fonds, tout cet argent qui a été ainsi réuni. De façon générale, d'abord, et sans surprise, les assemblées, eh bien, elles s'efforcent, dès leur début, de disposer naturellement de locaux pour l'évangélisation et pour le culte. Et ce ne sera vraiment pas toujours facile d'avoir les ressources suffisantes pour cela. En particulier lors de la crise du logement après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des situations très difficiles, dramatiques. Cette photo, c'est le bâtiment cultuel d'une assemblée à Annecy. Et c'est quelque chose qui est en dur, mais pas si dur que ça, vous le voyez. En outre, il y a l'utilisation de plusieurs tentes d'évangélisation. Et bien sûr, ce n'est pas notre propos ici d'en parler plus largement, mais je signale simplement que l'évangélisation, par le moyen des tentes, a été quelque chose de remarquable pendant de longues années, disons vers le milieu du XXe siècle. Or, l'utilisation de plusieurs tentes d'évangélisation, c'est quelque chose qui a mobilisé beaucoup de fonds. La logistique des campagnes d'évangélisation sous tente, elle est assez onéreuse. En 1950, par exemple, les campagnes de la tente marseillaise, comme on disait, donnent lieu, en comptant l'achat du matériel et les frais d'exploitation, à 400 000 francs de l'époque de dépenses, entièrement couvertes par des dons. C'est donc un chapitre important d'affectation des fonds. Alors, concernant les ministres de l'Évangile, par ailleurs, alors il faut dire qu'au milieu du XXe siècle, les assemblées, les jeunes assemblées françaises, sont encore loin, c'est sûr, d'assurer l'entretien de tous leurs ministres, qui sont déjà, pour certains d'entre eux, employés à plein temps. En attendant, on peut regarder un peu quelles sont les sommes distribuées, déjà, à l'époque, par ce qu'on appelait le fonds d'évangélisation, puis ensuite ce qu'on appelait le fonds général des frères. Et ce qu'on note ici, c'est que les sommes distribuées par ces fonds, ces fonds communs aux assemblées, ces sommes-là sont en augmentation. C'est ce qui ressort globalement. Alors, plusieurs remarques pourraient être faites aussi. Pour cela, il y a le livre. voilà. Non, je ne fais pas de pub. C'est juste mon côté arménien là, qui me presse. Il faut bien que je sois à la hauteur. Qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, voilà, c'est qu'une petite remarque peut-être qui ressort, c'est, je trouve intéressant de le faire ressortir en tout cas, c'est la volonté d'aider l'étranger. On est là dans les années, enfin au milieu du XXe siècle, les assemblées en France sont pour la plupart très jeunes encore, or il y a une certaine volonté, c'est en vert ici, plus ou moins net, il y a une volonté d'aider l'étranger, c'est les missions et la solidarité à l'étranger. Et les années suivantes, d'ailleurs, semblent confirmer cela. C'est quelque chose qui est intéressant et assez remarquable. Alors, on parle ici déjà de fonds d'évangélisation, de fonds général. Il faut donner, du coup, quelques précisions à propos de ces fonds de solidarité. En effet, c'est pour ne pas simplement réagir aux besoins qui se présentent et qui sont exprimés par l'activité, mais plutôt pour pouvoir anticiper un peu les demandes que la nécessité d'un fonds national de solidarité s'est fait sentir après la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'au départ, cette solidarité dénominationnelle, on pourrait déjà dire, cette solidarité financière, elle ne semble pas destinée à compenser, à pallier par une sorte d'intégration institutionnelle les fluctuations des effectifs de chaque assemblée. Cette solidarité financière, elle n'est pas destinée au départ à pallier les fluctuations des recettes des assemblées quand elles ont du mal à supporter leurs frais ordinaires de fonctionnement. Non. Au départ, cette solidarité financière, elle vise l'établissement et le développement des assemblées, ainsi bien sûr que la vitalité de leurs entreprises communes pour l'évangélisation et pour la mission. Et c'est ainsi qu'en 1947, s'est constitué le fonds d'évangélisation, comme on le disait. Un peu plus tard, en 1951, un fonds spécial aussi est constitué pour l'acquisition de nouvelles salles de culte en cette période de crise du logement. Et Paris a été d'ailleurs le premier lieu qui a suffisamment ému la solidarité sur ce plan-là, de sorte que ce fonds a été constitué. Vers la fin de l'année 55, un autre fonds pour l'œuvre des camps bibliques du Chambon-sur-Lignon est constitué. On est en effet à l'époque où d'importants travaux restent encore à faire sur donc la propriété qui, à l'époque, vient d'être achetée par Paul Grand. Alors voilà, pour pas faire trop de discours, comment on peut schématiser pour une décennie allant de 47 à 57 les recettes des fonds pour l'évangélisation, en rouge, pour les tentes d'évangélisation, pour les salles et pour les camps. Les choses sont un peu en progression. L'année 1950 semble un peu charnière ici. Et ce qui est flagrant, en tout cas, c'est l'importance qui est accordée à l'évangélisation. Ce sont les volumes d'en bas qui signalent donc les recettes pour l'évangélisation et l'évangélisation par les tentes, notamment. Alors, on pourra rajouter, juste à droite, à la fin de cette période, en 1957, que est constitué encore un fonds pour aider à l'installation au Tchad de deux infirmières missionnaires, en 1957. Et donc, ce fonds mobilise la solidarité en sorte qu'en 7 mois, 133 000 francs déjà sont collectés. Voilà un peu donc cette solidarité dénominationnelle qui prend forme pour ces actions, l'évangélisation, les camps et puis les salles de culte. Dans les années suivantes, jusqu'aux années 80, voilà la progression réelle, indéniable, même si elle est sinueuse, la progression des recettes du Fonds général des Assemblées de France. Et on ne doit pas oublier qu'une partie des dons faits par les fidèles pour les œuvres communes des assemblées ne passe pas par ce fonds général. Donc ces sommes seraient encore à être majorées, disons. Cette logique se poursuit dans les années suivantes, encore à la fin du XXe siècle. On pourrait noter finalement la création d'autres fonds qui signalent encore cette volonté de solidarité dénominationnelle. Le fonds pour les prêts, pour faciliter l'acquisition de locaux. Le fonds pour les veuves, pour soutenir des croyantes esselées. Le fonds pour les bourses d'études, pour la formation biblique. Et puis enfin, le fonds pour les nouveaux serviteurs, pour aider des assemblées peu nanties à soutenir leurs ministres de l'Évangile. Alors, à propos de ministres de l'Évangile, quelques précisions ici. On sait que c'est le modèle d'un ministère pastoral qui est combiné à un métier séculier qui a été longtemps en faveur chez les frères larges. On parlait au début d'une notable allergie au pastorat professionnel. Ceci dit, indéniablement, la situation des assemblées dans le monde évangélique a influé sur leur propre fonctionnement. Et à la fin du XXe siècle, déjà, on arrive à la moyenne d'à peu près un professionnel de l'Évangile par assemblée adulte de notre famille d'Église. Or, le principe, disons, originel un peu, un des principes originels de nos assemblées aura été l'indépendance des assemblées locales. Et cette indépendance ou ce principe prévoit l'autonomie financière de chaque communauté. En 1968, encore, un des frères en vue soulignait que si un ancien peut être amené à se consacrer exclusivement à son service dans l'assemblée, c'est celle-ci, et non pas un organisme supralocal, qui doit le soutenir en conséquence. Mais il faut constater aussi que cette mentalité évolue, puisque ce sont grâce à des sommes qui sont librement versées par les assemblées de France, mais aussi de l'étranger, que, par exemple, en 1978, l'entraide évangélique prend déjà en charge les salaires de 7 ministres du culte. Et il me semble que cette ligne, elle aura tendance à l'emporter. Alors, dernier point que j'aimerais évoquer, mais alors très brièvement, c'est le cas particulier de l'action caritative. Il serait dommage de la passer complètement sous silence. Les frères ont entrepris des œuvres sociales intéressantes sur le sol français dès l'entre-deux-guerres. Et ce sont en particulier des initiatives personnelles qui auront produit ces œuvres sociales intéressantes en vue du secours de dizaines au minimum d'enfants déshérités. Et on pourrait, je les mentionnerai simplement, faire mention donc de quelques œuvres de solidarité ou d'aide aux enfants. C'est la Maison des enfants, par exemple, dont l'histoire est associée au nom de l'américaine Priscilla Hoops Johnson, qui a commencé son activité en 1929 et qui l'a exercée en faveur des enfants pendant une cinquantaine d'années. C'est la Maison du Printemps qui nous ramène à l'histoire des comtesses, Madame Constance Comtesse, qui dès 1930 a ouvert un orphelinat à Digne. On pourrait aussi faire mention de l'orphelinat Bethel, qui a été ouvert par l'anglais Victor Vogue en 1934 à Écully, dans la banlieue de Lyon. On pourrait penser aussi au Bercail en Alsace, ouvert donc juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, outre les orphelinats, il y a ce que j'appelle les homes pour enfants. Par exemple, Edmond et Esther Buchanan, qui ont, dès 1957 à peu près, accueilli chez eux pendant de longues années, grâce au soutien, aux dons de particuliers de France ou d'étrangers, des dizaines d'enfants, plus d'une centaine au total. Et puis, en plus des œuvres en faveur des enfants, c'est une maison de repos qui a été fondée par les comtesses en 1928 à Digne, la maison dite La Sympathie, qui, elle, a été fondée grâce au soutien d'Américains, donc amis de la famille comtesse, en 1928, donc. Et cette maison ne cessera son activité qu'en 1987. Et puis enfin, il y a la maison La Clairière, la maison de retraite selon un projet cher à Pierre Bory. Le terrain a été acheté en 1968. Je note simplement, pour terminer sur ce point et conclure, que, à l'exception de cette maison de retraite, peut-être, c'est à chaque fois à l'initiative individuelle de personnes, on pourrait parler parfois de champions de la foi, que ces œuvres de solidarité sont apparues. Et ensuite, elles se sont appuyées, ces œuvres, d'une façon secondaire, sur des amis, des assemblées, sur des lecteurs, aussi des revues en vogue parmi les assemblées. Mais il ressort que les assemblées ont maintenu, elles, en tant qu'assemblées, le primat de l'évangélisation. Et elles ont ainsi confiné l'action sociale au niveau individuel de leurs membres. Je conclus en 4 remarques, simplement. D'abord, il me semble que ce qui ressort de ce survol, c'est en fait une caractéristique qui est essentiel à pas mal d'églises françaises, de professants en tout cas, savoir la fragilité financière. Elle est cette fragilité chronique chez les frères Large. Ceci dit, il est remarquable que les contributions vaillantes des fidèles et aussi le soutien obligeant de l'étranger auront suffi pour permettre le développement de nos assemblées. Deuxième remarque, même si dans la plupart des cas, l'aide de l'étranger apparaît déterminante, surtout dans les premières années de l'implantation, globalement, elle reste encore substantielle, même au seuil du XXIe siècle, pour dire que l'indépendance financière des CAEF ne semble pas encore tout à fait atteinte. Troisième remarque, concernant l'interdépendance financière de nos assemblées, alors il ressort qu'elle est limitée par une certaine réticence à l'égard de toute régulation venant d'en haut. En même temps, la solidarité des assemblées, elle s'impose de plus en plus aux esprits au fil des années. Et dans le même temps, c'est le pastorat aussi qui se professionnalise de plus en plus. Tout cela permet un peu d'imaginer prudemment que dans certains cas, il y ait quelques répartitions des charges financières qui sont inhérentes à la salarisation d'un permanent d'une assemblée. Enfin, il apparaît que pour les assemblées de frères, l'évangélisation, la croissance des convertis et la mission auront été les éléments qui priment au cours de leur histoire. Les finances des communautés ont toujours été réservées massivement à ces objectifs-là. Et quant à l'action caritative dans notre pays, elle est laissée aux initiatives individuelles. Voilà, il est grand temps que j'arrête. Merci pour votre attention. Que ces quelques souvenirs et remarques nous aident à nous stimule dans notre indispensable réflexion pour l'avancement du règne de Dieu. Je vous remercie.